VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
17h à Ouagadougou, 19h à Bujumbura. Bienvenue à notre journal. Au Gabon, forte tension dans le pays alors que les manifestations continuent contre les résultats contestés de la présidentielle et que le pouvoir refuse tout nouveau décompte des suffrages qui ont conduit à la réélection du président sortant Ali Bongo Ondimba face à son principal challenger Jean Ping. Le point avec notre envoyé spécial à Libreville, Idriss Fall.
Les émeutes ont continué aujourd'hui. Ça ne s'est jamais arrêté dans le quartier qui s'appelle Kembo. Et ce matin, ça s'est continué dans la banlieue, au PK12, à IAI, toujours quartier de Libreville. Les jeunes ont érigé des barricades. Et ça s'est poursuivi à l'intérieur du pays où on a beaucoup moins d'informations, notamment Port-Gentil, la rebelle qui est la capitale économique du pays. Ça s'est poursuivi à Oyem dans le nord, à Lambarané, au centre, et même, on m'a dit qu'il y aurait eu des manifestations à Franceville, qui est en fait la capitale du Haut-Ogooué, d'où est parti tout le problème. Internet, les réseaux sociaux sont coupés depuis mercredi nuit, et on ne peut presque plus envoyer de SMS. Le pain est devenu une denrée tellement rare qu'il y a des fils kilométriques devant les boulangeries qui peuvent faire encore du pain. Donc la situation globalement est tendue. Les 26 dirigeants de l'opposition qui sont en état de siège au quartier général de Jean-Ping, là-bas dans le quartier du Charbonnage, j'ai pu parler avec deux d'entre eux et ils m'ont affirmé que 17 personnes ont été tuées dans l'offensive des forces de l'ordre. Mais le ministre de l'Intérieur, M. Pacom Mouboye-Bouyeya, a affirmé hier qu'il n'y avait eu que 3 morts. Donc, en gros, le Gabon vit une sorte d'état de siège lorsque le Conseil de sécurité doit se réunir pour se prononcer sur la situation.
Notre envoyé spécial à Libreville, Idriss Fall. RDC, l'Organisation mondiale de la santé, a annoncé aujourd'hui avoir accompli la majeure partie d'une campagne de vaccination sans précédent contre la fièvre jaune en Afrique. Avec plus de 7 700 000 personnes vaccinées en un temps record dans la capitale congolaise, Kinshasa. Une telle campagne, qui prend habituellement 6 mois selon le communiqué de l'OMS, a été mise en place en quelques semaines afin de stopper l'épidémie de fièvre jaune avant le début de la saison des pluies en septembre. Depuis le commencement de l'année 2016, près de 1000 cas confirmés de fièvre jaune en RDC et en Angola ont été enregistrés, ainsi que 400 décès. À la date du 28 août, le gouvernement congolais avait précisé que 7 700 000 personnes avaient été vaccinées à Kinshasa et 1,5 million dans les régions proches de la frontière angolaise. Crise au Burundi, 50 nouvelles plaintes de familles burundaises pour des cas de torture, d'exécution extrajudiciaire et de disparition ont été déposées par un groupe d'avocats auprès de la Cour pénale internationale et également auprès du Haut commissaire aux droits de l'homme de l'ONU. Claire Morin-Gibourg a joint l'un de ses avocats, Maître Bernard Menguin.
Nous avions déposé une plainte pour 60 familles, ce qui était déjà un geste très très courageux parce que c'était des personnes qui vivaient au Burundi pour la plupart d'entre elles. Et ici, nous complétons cette plainte avec 50 nouvelles familles qui nous font confiance, et ce, malgré toutes les pressions qui ont été exercées pour que les gens se détournent des avocats des parties civiles. Nous savons qu'il y a encore d'autres mandats qui vont arriver, donc il y a un mouvement fort et intense, et on s'en réjouit parce que, en fait, ça veut dire que dans les familles de victimes, il n'y a plus la peur par rapport au pouvoir en place, et il y a le courage de dire « nous voulons que l'on rende justice pour les membres de nos familles ».
L'État burundais affirme que les ONG de défense des droits de l'homme sont instrumentalisées par les États occidentaux. Que pouvez-vous répondre à cette allégation ?
Je ne suis membre d'aucune ONG, je ne suis financé par aucune ONG, je ne suis financé par aucun État, je fais mon travail d'avocat. Aujourd'hui, ce sont des défenses qui ne sont pas faciles parce que les temps sont durs, les gens sont pauvres, et comme avocat, j'estime qu'il faut continuer malgré tout le combat pour l'État de droit, pour la justice. Donc ceci n'a strictement rien à voir avec des considérations politiques. La loi est la même pour tout le monde. Si des crimes contre l'humanité sont commis, il faut poursuivre les auteurs de ces crimes et j'exerce mon mandat d'avocat. Pas plus, pas moins.
Devant quelle juridiction cette plainte va pouvoir être portée ?
Alors, le juge naturel de ce genre de crime, c'est le juge au Burundi. Mais vous savez qu'aujourd'hui, la caractéristique du pouvoir judiciaire burundais, c'est que il est instrumentalisé à un point tel que la défense dérangeante, celle que nous portons, n'est plus acceptée. Moi, je suis interdit de séjour. Maître Armel Nyangéré fait l'objet également de poursuites pour complicité de putsch et on a demandé sa radiation. Donc, on assiste aujourd'hui à un processus où on empêche la défense d'agir.
Bernard Minguin, avocat au barreau de Bruxelles et membre du collectif des avocats des victimes burundaises.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Au Burkina Faso, deux hommes, un douanier et un civil ont été tués et trois autres personnes blessées dans une attaque menée par des assaillants non identifiés dans la nuit de jeudi à vendredi contre un poste de douane à Mankoy dans la province de Loudaland, à la frontière avec le Mali et le Niger. C'est ce qu'indiquent les autorités locales. Ce poste douanier frontalier avait déjà fait l'objet d'une attaque similaire en 2015. Il y a eu plusieurs incursions d'islamistes armés dans la région. Et puis au Mali voisin, les forces de sécurité maliennes sont aussi la cible d'attaque, notamment dans le centre du pays. Hier, des hommes armés qui scandaient Allahu Akbar ont mené un raid à Beleni Teni dans la région de Ségou. Il n'y a pas eu de victimes, mais les assaillants ont emporté une moto. Plus de détails avec notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
Le poste de gendarmerie de Beleni Teni, à quelques kilomètres de Sang, région de Ségou, pour ne pas dire au centre du Mali, a été attaqué par trois assaillants bien armés. Ils étaient sur de grosses motos. Après avoir traversé le fleuve du côté du Massina, ils se sont dirigés vers le premier poste de la gendarmerie. Ils ont brûlé deux motos et emporté une. C'est après que le renfort de l'armée malienne est arrivé sur place pour prendre position et rassurer la population. 24 heures avant cette attaque, il y a eu une autre contre les FAMA dans le cercle de Douanza. Les forces de sécurité ont lancé des opérations de ratissage et interpellé plusieurs suspects. D'après des sources sécuritaires, ce sont des attaques simultanées qui visent à chasser les forces de sécurité du Mali de la brousse. Ces mêmes sources affirment aussi qu'il est très difficile d'arrêter ces assaillants parce qu'ils se dissimulent dans la population. Ce vendredi 2 septembre, le poste de Mendoli dans l'arrondissement de Ouo, cercle de Banyangara, toujours dans la région de Mopti, six hommes armés ont attaqué le poste de gendarmerie de cette localité. Un gendarme a été blessé. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Présidentielle américaine 2016, maintenant le projet de réforme de l'immigration du candidat républicain Donald Trump continue de dominer l'actualité. Le point avec chérubin Gabi Dorsil.
Donald Trump a promis de sévir vigoureusement contre l'immigration illégale et aussi de limiter l'immigration légale. Selon l'agence Associated Press, il est ainsi devenu, de récente mémoire, le premier candidat d'un parti majeur à proposer une réduction de l'immigration légale aux États-Unis. 13% des personnes vivant actuellement dans ce pays sont nées à l'étranger, la plus importante proportion depuis 1920. Le candidat républicain a rejoint le camp de divers groupes qui se battent depuis des années pour une réduction de l'immigration légale aux États-Unis. Une rupture avec l'attitude traditionnelle des politiciens des deux grands partis américains. Ceux d'entre eux prêchant une plus grande fermeté vis-à-vis de l'immigration l'avaient fait jusqu'ici en dénonçant toute amnistie en faveur des sans-papiers, tout en se disant favorable à l'immigration légale. Les milieux d'affaires, soutien traditionnel du Parti républicain, ont toujours fait du lobbying pour une augmentation des entrées de travailleurs étrangers aux États-Unis. La position de Donald Trump s'inscrit donc à contre-courant de cette tendance et penche du côté des adversaires de l'immigration. Ces derniers sont préoccupés par les projections démographiques du recensement américain, indiquant que les Blancs constitueront une minorité de la population des États-Unis, tandis qu'on assistera à une montée en puissance des minorités actuelles.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Monsieur Juna.